Voilà, alors bonsoir à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, donc Frédéric Jean, je suis français en Allemagne et j'ai le privilège de continuer ce chapitre. Merci pour ceux qui m'ont invité à le présenter. Donc on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. On avait vu ces trois premières parties, aucune condamnation. Ensuite, l'habitation de l'esprit dans le croyant, l'adoption. Et ce soir, les deux dernières parties de ce magnifique chapitre 8 des Romains, l'espérance de la gloire, suivie de aucune séparation de l'amour de Dieu. Et comme il y a 14 jours, on va surtout lire bien sûr ensemble le texte qui est le plus important et ensuite apporter quelques commentaires. J'ai mis à la fin de la présentation la bibliographie des ouvrages que j'ai pu consulter pour enrichir les réflexions, les études. Alors, l'espérance de la gloire, des versets 18 à 30, on commence par la lecture. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la création attend d'une vive attente la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été assujettie à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire. Elle est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Alors si on se replace un tout petit peu où on en est dans le chapitre. Les derniers versets, verset 17, le dernier verset, c'était « Nous sommes enfants de Dieu, et si enfants, aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. » C'était très élevé. Et M. Guesblin disait « Le sommet de l'épître a été atteint, et maintenant nous regardons vers l'avenir, du sommet de cette montagne. » Et c'est pour ça que l'espérance de la gloire, c'est de regarder justement vers l'avenir. On est monté sur la montagne. Bien sûr, quand on va redescendre, il y aura de la souffrance, mais on va regarder l'avenir. Et il y aura un autre sommet à la fin du chapitre qui sera un sommet de l'amour. L'amour qui nous donne une pleine sécurité. Alors, effectivement, dans le verset 17, non seulement il y avait ce héritier, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, mais il y avait la petite nuance de la fin, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. On avait dit la dernière fois que les si du moins de l'apôtre Paul sont souvent à traduire par puisque, ça va avec, c'est normal, c'est pas une condition comme si on pourrait ne pas le faire et dans ce cas ça remettrait en doute le début, pas du tout. Mais c'est comme normal que si nous souffrons avec lui, eh bien nous serons aussi glorifiés avec lui. Souffrance, gloire. Voilà l'ordre qui a été enseigné dans la Bible plusieurs fois. Et bien sûr, le Seigneur l'a fait comprendre à ses disciples quand ils avaient du mal à entrer dans ses pensées, quand le Seigneur leur a annoncé trois fois, à trois moments différents, ses souffrances, ils n'y entraient pas. Et sur la montagne, ils auraient aussi aimé qu'on reste dans la gloire, alors que la croix était devant le Seigneur et qu'avec Moïse et Élie, ils étaient en conversation sur cet exode, sur cette mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alors, ces souffrances du temps présent sont pas à comparer avec la gloire à venir, donc souffrance, gloire à venir et gloire ici. Et si on remet tous les mots ensemble, on a tous les mots de la souffrance, souffrance du temps présent, assujetti, vanité, on est forcé, assujettis, servitude, corruption, soupir, travail, soupirons. Voilà tous ces éléments qui font penser à la souffrance. Et puis tous les éléments de la gloire, c'est gloire à venir. Elle nous sera révélée. On attend une vive attente, la révélation, l'espérance. Elle sera délivrée. Ce sera la liberté, la gloire. Et nous qui avons les prémices de l'esprit, nous attendons l'adoption, la délivrance. Donc voilà un peu la structure du paragraphe. Les souffrances sont suivies par la gloire. Et la gloire, justement, l'espérance de la gloire, qui est le titre un peu de la partie, nous aide à traverser ce temps de souffrance. Si, et dans cette pensée-là, la souffrance, ce n'est pas du tout du stoïcisme qui mépriserait justement la souffrance ou qui endurcirait le cœur. Ce n'est pas non plus exciter la piété, exalter la souffrance. C'est des yeux ouverts pour considérer les circonstances du temps présent à la lumière de l'éternité. Ça, c'est une citation de Marc Allauvent, Alain Bonnet dans Sonder les Écritures. Alors, ce qu'on remarque dans ce texte, c'est que la création joue aussi un rôle important dans ce paragraphe. Et en fait, la création et l'homme, eh bien, sont liés. Ils ont été liés pour le pire au moment où l'homme exploite mal la création. Hein, création assujettie. Mais elle sera un jour délivrée au moment, justement, où les enfants de Dieu seront glorifiés. Donc, la création et l'homme, qui est donc, fait bien sûr partie de la création, mais qui est dans ce paragraphe un petit peu mis en vis-à-vis de la création. Donc la création, ça a l'air d'être tout le reste, sauf les hommes. Eh bien, toute cette création, son destin est lié à l'homme, qui lui a une place tout à fait à part dans la création. Ce qui est aussi une pensée importante de l'enseignement biblique. L'homme est totalement à part dans la création, parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Et la création souffre quand l'homme est dans le péché et dans l'exploitation, et il exagère, et il fait tout mal avec la terre, mais elle va bénéficier de la gloire des enfants de Dieu, de la gloire des hommes qui sont destinés justement à la gloire que Dieu prépare. Alors, ce lien entre homme et création et la responsabilité que l'homme a sur la création était déjà bien expliquée dans l'Ancien Testament. Si on regarde Genèse 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Un peu plus loin, fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui peut se mouvoir sur la terre. Donc cette autorité de l'homme sur la création est un principe fondateur qui ne doit pas être mis en cause. Et on l'a dans notre paragraphe de Romains 8. Et il est dans la Genèse, il est aussi dans le psaume 8. L'homme est au-dessus de la création, couronné de gloire et d'honneur par cette position tout à fait extraordinaire, à part de la création. Et en cela, il est une image de Christ, le psaume 8 étant un psaume messianique qui va citer le Christ. Si on le lit, ce psaume 8, quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui et le Fils d'homme, que tu le visites. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Les brebis, les bœufs tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Donc on a un psaume qui d'abord s'interprète à propos de l'homme créature humaine, couronné de gloire et d'honneur, parce que justement placé en autorité sur la création. Et ce vocabulaire couronné de gloire et d'honneur, dominé, eh bien sûr, est interprété ensuite, on va dire, est presque appliqué, hein, en l'occurrence, il est appliqué par l'auteur de l'Épître aux Hébreux au Christ. Hein, l'homme créé dans son autorité devient une image du Christ dans sa gloire. Et c'est donc le psaume qui est à la fois cité et commenté dans ce sens par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc on va dire, si l'interprétation du psaume serait de le voir l'homme créé qui a une autorité sur la création, tout le reste de la création, eh bien une application est faite par l'auteur de l'Épître aux Hébreux au Christ. Il y voit un type du Christ. Donc ce lien entre la création et l'homme que l'on voit dans notre paragraphe est bien présent dans l'Ancien Testament. Et si maintenant on retourne dans le texte, la création, elle attend d'une vive attente la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été assujettie à la vanité, non de son propre cœur. Cette vanité, c'était quand elle était séparée du Créateur, la création a perdu son sens et sa finalité, qui était le service de Dieu. Donc elle a été assujettie à la vanité, non de son propre gré, parce qu'elle n'a pas de volonté, la création. Donc celui qui avait de la volonté, c'est l'homme, qui, lui, de son propre gré, s'est éloigné de Dieu et a été le fondement de cet assujettissement, de cette servitude, corruption. Et l'homme, en fait, exerce mal son autorité sur la création. Et vous remarquerez qu'il l'exerce aussi des fois mal dans le couple. Donc ce côté de cette autorité mal exercée, c'est ce qui fait que il y a un assujettissement et il y a une souffrance. Et l'homme apporte la corruption. Il fait souffrir la nature, on va dire, qui l'entoure. Il la met dans la servitude, c'est-à-dire qu'il en extrait le maximum qu'il peut, sans du tout réfléchir aux conséquences. Ce qui fait que la nature est un peu personnalisée ici dans ce texte, alors que par ailleurs elle n'a pas de volonté, comme on vient de le dire, et elle est en travail, elle souffre, mais c'est un travail d'enfantement, c'est-à-dire qu'il y a une espérance derrière, il y a quelque chose derrière. Et donc, c'est vraiment la création, ainsi on a les quatre mots de la création qui souffrent de cette situation. Si on continue un petit peu, on pourrait dire que la base de l'environnement, et j'étais avec mon chef hier, et je lui racontais ça, disait, tu sais, la base de l'environnement est dans le chapitre 8 des Romains, hein, le développement durable, sustainability, toutes ces choses très modernes. C'est là, c'est extraordinaire de voir que ce concept d'écologie, de respect de l'environnement est dans ce texte du chapitre 8 des Romains, avec une création qui soupire parce qu'elle est exploitée, et les mots corruption, vanité, servitude le montrent bien. Mais quand on a dit ça, il faut garder un peu de mesure, et on est aidé par un autre texte du Nouveau Testament qui va venir un petit peu contrebalancer, et c'est celui de Timothée. L'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se détourneront de la foi, ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, donc c'est quand même assez grave, menteurs hypocrites, eux dont la conscience est cautérisée, donc brûlée au point d'être insensible, ils défendront de se marier, prescriront de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. En effet, toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a aucune qui soit à rejeter si on la prend avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Donc, c'est bien le respect de l'environnement, le développement durable, parfaitement en accord avec Romain 8, mais attention à cet esprit du monde qui, spécialement dans nos années, là, ces dernières années, nous entraîne vite vers une ligne rouge. Hein, le végétarien, le végan, et pas de mariage, donc végétarien, végan, totalement en contradiction avec le fait que toute créature de Dieu est bonne, aucune n'est à rejeter, sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Et puis, le défendre de se marier, c'est pas tellement. Enfin, on voit que le fait de défendre de se marier, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas dans cet état d'esprit pour éviter des enfants? Peut-être parce que certains penseraient qu'on serait trop sur la terre. Et donc, cette pensée-là qui va pas tarder à nous arriver rapidement autour de nous, c'est un élément du monde où on met l'environnement tellement haut qu'on va aller dire, oula, mais ce serait bien qu'il y ait moins d'enfants quand même, ça serait bien qu'on arrête d'avoir des familles, etc. Donc ça, c'est un équilibre à trouver avec Romains 8, qui établit par ailleurs, comme on l'a dit, le principe du développement durable. Alors, cet homme qui était au centre de la restauration glorieuse, comme il était responsable de l'asservissement, eh bien la création, elle attend la révélation des fils de Dieu. Donc les hommes, par leur désobéissance, responsables ensuite de l'asservissement, eh bien au moment où ils sont dans la révélation des fils de Dieu, eh bien ils entraînent avec eux des choses positives pour la création. Et on attend l'adoption. Donc cette fameuse adoption, on pourrait dire, mais c'est bizarre parce qu'on l'a vu il y a 15 jours, l'adoption, ça avait l'air d'être quelque chose déjà acquis. Pourquoi c'est à la fois acquis et puis on l'attend? Alors les chrétiens sont enfants de Dieu, fils de Dieu par adoption, comme on l'a vu au début du chapitre. L'adoption, elle est donc actuelle, mais elle est aussi future, au moment où nous serons glorifiés. C'est-à-dire soit ressuscité, soit notre corps sont transmués, transformés pour retrouver le Seigneur. Cette adoption, elle est donc totalement acquise maintenant, mais elle sera visible, vécue au moment de cette transformation des corps. Et ce n'est pas la seule notion qui est à la fois acquise et future. Un autre exemple, c'est le salut, qui est à la fois actuel, nous sommes sauvés, mais c'est aussi futur, par exemple, dans le texte. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, c'est le salut de nos corps, c'est le salut final. Donc, ce n'est pas une nouveauté d'avoir quelque chose qui est déjà acquis, mais qu'on attend encore. Et non seulement, donc, car nous savons que toute la création est en soupir, elle est en travail jusqu'à maintenant, non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Donc la délivrance du corps, ça veut dire quoi? Donc ça ne veut pas dire que le corps est mauvais en soi. Ça, c'était l'erreur des gnostiques au IIe siècle, qui pensaient que le mal était dans le corps. Et on n'est pas du tout prisonnier de notre corps. Le corps est tout à fait honorable et Dieu tient beaucoup à notre corps. Alors, la preuve, c'est qu'il prendra soin de les ressusciter. Donc le corps est très important. Mais la souffrance est liée à la condition humaine et au corps. Et donc la résurrection ou le changement, donc les deux possibilités pour les vivants, pour les morts et pour les vivants, résurrection ou changement de nos corps constitue une délivrance, justement par rapport à la souffrance. Donc, quand on dit la délivrance de notre corps, c'est plus la délivrance de la souffrance que nous vivons dans notre corps. Les deux classes de transformation des corps, c'est les morts seront ressuscités incorruptibles, donc ils étaient corruptibles puisqu'ils étaient morts dans un tombeau et donc ils pouvaient être... Les corps sont transformés en poussière, donc ils étaient incorruptibles, ils étaient corruptibles, ils seront ressuscités, ils deviendront incorruptibles. Et nous, donc les vivants, nous serons changés, c'est-à-dire que on était mortel et on va revêtir l'immortalité. Donc voilà les deux familles de transformation de nos corps, soit ressuscités, soit changés. Les ressuscités deviennent incorruptibles, les changés deviennent immortels. Voilà les deux classes, et on avait aussi eu l'occasion d'expliquer que ce sont deux groupes à poids comparables, on va dire. Les ordres, au niveau des ordres de grandeur, ces groupes sont de taille probablement comparable. Et puis alors, nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons attendant l'adoption, la délivrance, on retrouve le lien qu'on avait vu entre résurrection ou changement et présence du Saint-Esprit dans le croyant, qui avait été un point du verset 11. Ici, prémisse ne veut pas dire qu'on aurait eu l'esprit que un petit peu et qu'on attend l'esprit complètement. Non, ça veut plutôt dire que justement, la présence de l'esprit, c'est comme l'annonce que nous allons être ressuscités, nous allons être changés, nous avons les prémices de l'esprit, l'esprit est en nous. Et un des premiers fruits de l'œuvre de Christ, c'est justement d'avoir l'esprit dans le croyant. Donc, à ce titre-là, le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans le croyant est un prémisse, fait partie des prémices de l'œuvre de Christ, donc des premiers fruits. Et la délivrance de notre corps est expliquée également dans Philippiens 3, verset 20. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Donc, on a bien ici la notion que le corps sera effectivement transformé et va ressembler à celui du Seigneur. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que le travail dont il est parlé là, c'est un travail d'enfantement, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc la peine des croyants sera changée et chargée d'espérance. Donc aujourd'hui, notre souffrance est chargée d'espérance. Et la création, en l'occurrence ici, c'est la création qui était en travail, eh bien, il y a une espérance. Et par exemple, ce qui nous est décrit dans Ésaïe 11, le loup habitera avec l'agneau, le léopard couchera avec le chevreau. Voilà quelque chose qui est évidemment un très grand changement pour la création par rapport au travail, à la souffrance qui est vécue aujourd'hui. Voilà, donc cet assez long paragraphe du verset 18 au verset 23. Et maintenant, on continue avec le verset 24. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Alors, on regarde de nouveau les mots, donc dans la même couleur, tous les mots espérance, espérance, espère, voilà, et puis dans l'autre couleur, voir, espérer, voir. Le Seigneur Jésus a dit à Thomas, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Hébreux 11 nous dit que la foi est l'assurance de ce qu'on espère et la conviction de réalité qu'on ne voit pas. Donc, c'est justement ces choses-là qu'on ne voit pas et ce sont ces choses que nous espérons. Et nous l'attendons avec patience. Donc, qu'en est-il de notre attente? Sommes-nous dans l'attente, dans l'attente du retour du Seigneur, dans l'attente de sa gloire? Dans l'attente de la résurrection de nos bien-aimés, dans l'attente du changement de nos corps, cette espérance, et oui, nous ne le voyons pas, il n'y a pas effectivement de signe précurseur, il n'y a pas d'élément qui nous aide à voir ces choses à l'avance, et c'est exactement ce que dit le Seigneur à Thomas, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Hein, Thomas, lui, il a pu voir le corps glorifié de Jésus pour l'encourager, mais le Seigneur nous donne à nous ce privilège ou cette situation spéciale d'être dans l'espérance de ne pas voir. Et nous ne l'avons pas vu lui non plus. Hein. Il est parti au ciel. Les disciples nous ont raconté tout ça et nous nous inscrivons dans leur témoignage et nous ne l'avons pas vu. Et pourtant, nous l'aimons, comme le dit l'Épître. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce qu'il intercède pour les saints selon Dieu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, c'est là les trois dernières fois que le Saint-Esprit est mentionné dans notre chapitre, que nous avions nommé la vie par l'Esprit, une vie remplie par l'Esprit et animée par l'Esprit. Trois dernières mentions sur 21, hein, et sur les 21, environ 18 ou 19, où c'est vraiment le Saint-Esprit dont il est parlé. L'Esprit qui, dans ce chapitre, est une personne. On a vu différents de ses titres la dernière fois. Ici, on peut voir différentes de ses actions. Il habite en nous, il conduit, il rend témoignage, il nous est en aide, il intercède, il sonde des cœurs. Donc, l'aspect trinitaire dans ce chapitre est très, très, très présent, puisque nous avons vu Dieu, le Père, nous avons vu l'œuvre du Seigneur, et bien sûr, beaucoup, beaucoup d'éléments sur le Saint-Esprit en tant que personne. Donc, on a, si on cherche un chapitre sur la Trinité, eh bien, Romains 8 est un très, très bon chapitre. Alors, l'Esprit nous est en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Et quand on ne sait pas comment prier, quand on ne sait pas ce qu'il faut dire, si lors d'un culte chrétien, un service, on ne sait pas comment commencer ou comment continuer, eh bien, se tourner vers les psaumes est en général une très bonne idée. Et si on regarde ici quelques exemples, on a par exemple au psaume 77, Je me souviens de nuit de mon cantique, je médite en mon cœur et mon esprit cherche soigneusement. Ou bien au 142, quand mon esprit était accablé en moi, toi tu as connu mon sentier. Ou bien 143, enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur un terrain aplani. Alors nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Alors l'Esprit lui-même nous est en aide. Comme le ressentaient les différents auteurs de ces psaumes. Il nous est en aide, c'est la seule mention avec Luc 10, Marthe qui dit au Seigneur, mais dis donc, dis-lui donc au sujet de Marie de m'aider. Donc il est vraiment en aide pratique. En aide pratique. Il nous aide dans notre faiblesse. Comme Marthe aurait eu bien envie qu'on l'aide à préparer le repas avec ce grand groupe. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Élie a dit en Job 32, toutefois, il y a un esprit qui est dans les hommes et le souffle du Tout-Puissant leur donne de l'intelligence. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit parce qu'il intercède pour les saints selon Dieu. Tu discernes, sonder les cœurs, tu discernes de loin ma pensée, psaume 139. La parole n'est pas encore sur ma langue. Que voilà, ô Éternel, tu la connais tout entière. Dieu sonde les cœurs, son esprit sonde les cœurs. Donc, il nous est en aide très pratique et il sait exactement ce qu'il y a au fond des cœurs. Et il y aura parfois pas beaucoup de mots à exprimer, mais un cœur ouvert devant lui. Et il fera ce qui est nécessaire. Alors l'Esprit intercède. Dans Jean 14, il est le paraclet, un peu justement celui qui se tient à côté, celui qui est notre avocat, celui qui se met à notre service comme un avocat. Dans Matthieu 10, on a la notion que l'Esprit parle dans le croyant. Hein, c'est quand il est dit que si vous ne savez pas ce qu'il faudra dire à ce moment-là, quand vous serez devant des tribunaux, eh bien, l'Esprit parlera en vous. Et puis, comme on le mentionnait tout à l'heure sur la Trinité, celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour ça selon Dieu. Donc, en fait, Dieu voit au fond du cœur d'un homme la pensée de son esprit. Et ce sera selon Dieu. Donc on a deux personnes distinctes, mais bien sûr divines, et ensemble, Dieu voit au fond du cœur ce que l'Esprit de Dieu place dans le cœur. Donc ça, c'est quand même des passages très très particuliers. Hein. On peut bien sûr pas expliquer hein, la Trinité, mais voilà, ça nous est posé ici un peu pour nous rassurer que si nous on ne sait pas ce qu'il faut dire, eh bien celui qui connaît bien nos cœurs, lui saura bien le dire. Et c'est peut-être pas des paroles, ce sera peut-être des soupirs inexprimables. Mais ce sera selon Dieu, ce sera exactement ce qu'il fallait dire, exactement ce qu'il fallait exprimer, si ça n'est pas dit. Donc on est rassuré par ce côté, ce sera selon Dieu. On remarque d'ailleurs que l'aspect soupir est trois fois dans notre texte, dans le paragraphe d'avant, hein, la création ensemble soupire, et puis ensuite nous soupirons. Et maintenant, c'est l'esprit qui soupire. Donc, on a une création qui soupire, nous soupirons avec, et puis l'esprit exprime des soupirs inexprimables. Et si on pense au Seigneur Jésus, lui aussi, il a soupiré. Marc 7, 34, avec celui dont il a dit Ephata, et puis Jean 11, 33. À la résurrection de Lazare, au moment du tombeau, quand il a demandé où l'avez-vous mis? Voilà, on va faire la pause maintenant et prendre peut-être avant quelques questions au cas où il y en ait. Bonsoir Nathanaël.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à chacun. Donc effectivement, on a la chance d'avoir quelques questions. Je te propose de répondre avant la petite pause qu'on va avoir. Une question intéressante sur le passage que tu as mentionné de 1 Timothée 4, verset 5. Comment comprendre le fait que la viande est sanctifiée, un, par la parole de Dieu, par la prière? Et puis une question, j'imagine, deux, les autres nourritures ne doivent pas être sanctifiées? Point d'interrogation.
Non, je pense que quand on relit le passage de Timothée, d'abord il y a un petit problème de vocabulaire. Hein, le mot viande veut dire nourriture, aliment. Donc les viandes, ce sont les nourritures, les aliments. D'ailleurs, la nouvelle traduction révisée utilise le mot aliment. Mais après, on comprend dans la lecture qu'il s'agit bien de toutes les créatures qui nous sont données. Et donc, c'est bien. C'est une autorisation spéciale hein, qui a quand même été donnée aux hommes après le déluge et non pas à la création. À la création, on avait l'autorisation de manger des fruits et des plantes et de tout ce qui sortait de la terre. L'autorisation spéciale de manger de la viande et par extension des poissons, même si ce n'était pas précisé à ce moment-là, c'est vraiment après le déluge. Donc c'est dans un deuxième temps et ça nous est donné et c'est sanctifié par la parole et la prière. C'est le côté de comme on le voit quand le Seigneur partageait un repas, il rendait grâce de façon très brève, semble-t-il, mais rendre grâce faisait partie de cet élément. Et puis, voilà, quand on dit sanctifié aussi par la parole, eh bien, ça peut être un moment, hein, un moment de table, peut être un moment où la Bible est ouverte et qui tient lieu aussi un peu de, on va dire, d'action de grâce au moment de prendre des aliments. Mais ça concerne, je pense, tous les aliments. Mais il y avait un zoom spécial sur la viande, puisqu'il y avait une autorisation spéciale.
Merci. Autre et dernière question pour cette partie-là. Dans le verset 23, pouvez-vous reprendre l'explication de prémices de l'esprit? Je n'ai
Oui.
pas très bien compris.
D'accord. Donc, on peut juste
Nous
faire.
avons les prémices de
Voilà.
l'esprit.
Donc, nous attendons, donc la création est en travail jusqu'à maintenant, non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons, nous-mêmes attendant l'adoption, la délivrance du corps. Donc, on a les prémices de l'esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous a été donné dans notre corps, il habite en nous, et il y a une forme de garantie que ce corps habité par le Saint-Esprit va être un jour délivré et sera soit ressuscité, soit glorifié. Et le lien entre le Saint-Esprit habitant nous et nos corps seront ressuscités, on l'avait déjà eu au verset 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite. Donc c'est bien parce que l'esprit habite en nous que nous aurons cette délivrance du corps, cette transformation ou cette résurrection et que nous serons dans la gloire. Et alors pourquoi les prémices? Parce que justement, c'est comme un avant-goût, c'est-à-dire que le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est comme une garantie que ça va se passer. Et puis, il y a la notion aussi que cette prémisse, au sens que c'est les premiers fruits de l'œuvre de Christ, un des premiers fruits de l'œuvre de Christ, c'est que le Saint-Esprit descend sur la terre, puisque lui-même est monté au ciel pour faire place à la descente du Saint-Esprit.
Merci. Et je vois encore une question sur le chat que je n'avais pas vue, pardon. À l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas l'exploitation sans limite des matières premières comme aujourd'hui. Peut-on penser alors dans ce contexte-là que les soupirs de la création concernaient la terre maudite suite à la chute, les sécheresses, les famines, les animaux qui s'entre-dévorent, etc.?
Alors oui, je pense que c'est une bonne pensée de voir que la création a subi suite à la chute, donc Genèse 1, et après aussi, probablement après le déluge, un certain nombre de transformations importantes. Et le déluge, d'ailleurs, est aussi conséquence, bien sûr, du péché de l'homme, jugement, porte un caractère de jugement. Il me semble que c'est quand même plutôt l'homme qui a assujetti dans ce texte, mais on aurait pu, certains commentateurs se disent, non, finalement c'est Dieu qui a permis les épines, c'est Dieu qui a donné un jugement suite à la chute de l'homme. Mais il me semble j'y vois plutôt, avec beaucoup d'autres, que c'est bien l'homme qui a assujetti, mais par extension, c'est-à-dire c'est l'attitude de l'homme. Le péché qui a fait que la création a subi beaucoup de choses. Et donc le déluge en fait partie et toutes les transformations qui ont eu lieu suite au déluge aussi en font partie. Et donc oui, je pense qu'effectivement l'aspect féroce des animaux, qui est plus peut-être d'ailleurs déluge que création, que chute, mais ça c'est difficile à démontrer, l'aspect épine, l'aspect difficulté de la culture, et donc peut-être de ce fait aussi sécheresse, etc., font partie des conséquences générales du péché. Mais l'égoïsme de l'homme s'est quand même manifesté très tôt, même si effectivement La terre, elle n'en a peut-être pas toujours tout de suite subi des conséquences majeures hein, de par sa taille, hein, mais l'égoïsme de l'homme s'est montré assez vite. Hein.
N'est-ce pas? Merci beaucoup Frédéric pour cette dernière partie du chapitre 8 des Romains. Donc on va reprendre d'ici quelques instants et je vous souhaite une bonne pause. À tout bientôt.
Merci.